Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation.
Bienvenue à l'épisode 8 du podcast Innovation, Agilité, Excellence. Mon nom est Véronica Marquez et en compagnie de Jean-François Nantel et d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience. Comment la comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les approches? Et finalement, des éléments pour faire un autodiagnostic. Bonjour Éric, bonjour Jean-François, comment ça va?
Ça va bien.
Bonjour Véronica, bonjour Jean-François.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Savez-vous qu'est-ce qu'on a en commun les années 2008, 2011, 2012 et 2020?
Comme ça là, non, pas vraiment.
Il y a eu des crises majeures à l'international dans chacune de ces années-là. En 2008, le crash immobilier, 2011, le tsunami au Japon, 2012, l'ouragan Sandy, puis 2020, je pense qu'on n'a pas besoin de mentionner qu'est-ce qui est arrivé. Mais un des éléments qui est en commun aussi dans ces années-là, à part des crises, c'est que quand on regarde le moteur de recherche de Google, dans chacune de ces années-là, le volume de recherche ou la quantité de recherche avec le mot « résilience » a drastiquement augmenté. Ça veut dire qu'on considère la résilience importante quand on vit la crise au lieu de la voir comme une étape qu'on peut mettre en place dans l'organisation d'une manière permanente. Donc, avant de parler de nos différents segments, juste clarifier quelques éléments. Vous savez, ma fascination pour les définitions, donc on va définir en ce moment. La résilience, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la capacité à maintenir un équilibre organisationnel. Si on parle de la résilience organisationnelle, c'est notre capacité à maintenir un équilibre organisationnel dans des conditions extrêmes pour qu'on puisse s'en sortir encore plus fort comme organisation, mais aussi doté de nouvelles ressources et de nouvelles connaissances. Il y a aussi plusieurs phases à la résilience. La première, c'est la préparation ou l'anticipation à l'événement. Ensuite, il y a l'événement lui-même. Il y a les premières réponses. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme organisation pour répondre à cet événement-là? L'impact initial, le temps avant l'impact complet, donc la durée que ça peut prendre. Dans certains cas, ça peut être plus long comme plus court. En ce moment, on est dans une période un peu plus longue. La préparation au recouvrement, le recouvrement lui-même, l'impact long terme de la crise. Et finalement, le dernier élément, c'est le processus d'apprentissage, donc la simple ou la double boucle d'apprentissage pour nous permettre de conserver les éléments que nous avons appris comme organisation, comme équipe pendant la crise, qui vont nous servir pour le futur. Donc, si on embarque sur notre premier élément, notre premier segment, les principes de résilience sont quelque chose qui me fascine depuis plusieurs années et qui attire beaucoup mon intérêt. Et donc, j'ai fait quand même beaucoup de lectures et de recherches sur le sujet. D'ailleurs, j'ai écrit plusieurs articles que vous allez trouver en référence dans les notes du podcast. Mais un des éléments qui m'a beaucoup impacté, en fait, c'est de voir à quel point la majorité des articles de littérature parlent de l'importance de la technologie dans comme un élément nécessaire et indispensable pour créer de la résilience dans les organisations. Tandis que pour ma part, je vois pas la technologie exactement de cette manière-là. Alors, je voudrais échanger avec vous, Éric, Jean-François, comment vous voyez anticiper la crise ou d'anticiper l'événement qui va causer la perturbation, que ce soit des événements géopolitiques, environnementaux, catastrophiques ou n'importe quel type d'événement. Je pense que la technologie va nous donner cette visibilité-là tant et aussi longtemps que nous, comme équipe dans une organisation, on va avoir indiqué que ces éléments-là peuvent être des perturbations dans nos activités. Donc, c'est un appui à nos processus internes qui vont nous permettre d'avoir plus de visibilité et de transparence sur les événements, mais ça ne va pas nécessairement régler 100% des problèmes auxquels on peut faire face. Jean-François?
Oui, et déjà que nos organisations ne sont pas nécessairement excellentes à travailler en mode transversal, cette capacité-là de s'entraider ou quand des pannes aléatoires ou des problèmes aléatoires qui surviennent un peu de nulle part, qui sont difficiles à prédire, on n'a pas nécessairement la bande passante pour aller s'entraider d'une manière efficiente ou efficace.
Mais je pense que c'est ce que la technologie peut apporter quand même. Une fois que nous, on a compris notre processus, la technologie peut nous permettre justement d'intégrer tous ces différents silos d'informations dans le même outil pour être capable non seulement de nous créer cette alerte-là de « il y a un enjeu potentiel qui peut nous affecter », mais aussi des options de solutions qui pourraient être pour lesquelles on pourrait avoir à décider pour être capable de diminuer l'impact de cette perturbation-là. Encore une fois, je pense que la technologie va apporter énormément sur différentes facettes. Au niveau de la résilience, je pense que c'est un système d'alerte excellent qui peut à la fois nous sauver beaucoup de temps dans la période de réaction pour être capable de prendre action très, très, très rapidement. Un des exemples que je voyais dans les articles que j'ai lus récemment, c'est qu'il parlait justement d'une entreprise qui fait du transport maritime avec des conteneurs à température contrôlée, où le produit doit demeurer à une température X pendant tout le voyage.
Ouais.
Maintenant, avec la technologie, avec l'Internet des objets, on peut être capable de mesurer la température du conteneur pendant tout son trajet. Et si on a une alerte qui nous dit la température n'a pas été respectée, le produit ne sera pas utilisable à son arrivée, mais on peut déjà placer une nouvelle commande pour remplacer ce produit-là qui va partir pendant que l'autre est encore en chemin et donc qui peut raccourcir notre période d'adaptation et de recouvrement face à cette perturbation-là.
Exact. Éric?
Mais si je pousse un petit peu plus l'exemple que tu donnes, je reviens à ce que un des éléments traumatisants, si je peux dire, que tu as mentionné au tout début, je prends l'exemple COVID 2020. Un des mots-clés qu'on entendait beaucoup sur les lèvres d'à peu près tout le monde il y a de cela encore 6 mois, c'était la notion de pivot. Le nombre d'entreprises qui réussissaient à faire un pivot, c'est-à-dire comprendre une situation qui est clairement désavantageuse au niveau opérationnel et au niveau organisationnel. Et comment est-ce qu'on peut sortir, on peut, en fonction des compétences clés de l'entreprise, développer soit un nouveau marché, soit un nouveau produit, un nouveau service en fonction des marchés actuels. Bref, comment qu'il était possible de développer d'autres avenues de croissance ou du moins de gérer une situation qui permettait à l'entreprise de sauver, à la limite, dans certains cas, de sauver les meubles. Pour moi, c'est un cas de résilience. Ça s'appuie sur deux éléments qui sont hyper importants, c'est de savoir quel est l'équilibre entre l'efficacité et la flexibilité qu'on a besoin d'avoir dans l'ADN de l'entreprise. Donc, quand on conçoit l'entreprise, quand on réfléchit à quelles sont les différentes composantes clés que je parlais tantôt, bien évidemment, c'est de voir dans quelle mesure les risques extérieurs qu'on peut anticiper, comment qu'ils viennent influencer, comment qu'on construit l'organisation. Et à la limite, ça donne l'occasion aussi, puis on en reparlera, de comment on est capable de tester notre modèle d'affaires en fonction de risques éventuels. Et ça nous permet d'avoir peut-être d'autres alternatives pour aller chercher une certaine forme de flexibilité dans le cas où ça pourrait arriver. Alors pour moi, cette notion de pivot-là que la COVID-19 a amené, ben c'est un bel exemple de résilience dans cette application. Jean-François?
Oui, moi qui viens du management de projet, ces questions-là d'analyse de risque me sont très chères. Hein, cette question d'évaluation de la probabilité de survenue hein, et de gravité des impacts sur l'activité ou sur le projet. C'est quelque chose qui est bien ancré dans ma façon de voir, ma façon de voir les choses. Mais justement, la résilience, j'ai un peu l'impression, de la façon que tu en parles, Véronica, que ça va au-delà de ça. La partie difficile dans l'analyse des risques, c'est pas l'estimation de la probabilité d'occurrence ou la gravité des impacts sur l'organisation ou sur le projet. C'est bien la capacité d'imaginer les différents événements qui peuvent se produire et venir affecter notre organisation d'une manière adverse. Je pense tout simplement à toutes ces crises de salmonellose dans les opérations de certaines compagnies de produits alimentaires, ou même dans certaines compagnies qui font des produits pharmaceutiques, par exemple, des infections bactériennes qui peuvent rentrer dans les processus. Ça, c'est extraordinairement difficile à la fois à imaginer et à prédire.
En fait, tu as dit quelque chose qui m'a rappelé un événement. Tu as parlé d'imaginer les effets ou les risques qu'on pourrait affronter. Il y a quelques années de ça, il y a une organisation publique au Québec qui faisait justement des tests de risque, des analyses de risque et des simulations sur le terrain pour que leurs équipes soient en mesure de répondre à différents scénarios. Et le scénario qu'ils avaient développé pour cette simulation-là, c'était qu'est-ce qui arrive si, je crois que c'était Montréal ou le Québec, se fait attaquer par des zombies. Et puis, je me souviens, en ce moment-là, les médias avaient comme réagi d'une manière que moi, je trouvais un peu excessive dans la mesure où c'était c'est tellement pas plausible, comment est-ce qu'on peut penser de faire un exercice de cette manière-là? Mais c'est justement le fait que l'exercice dépassait toutes les limites que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui nous permet, de réfléchir à l'extérieur d'un carré de sable préétabli et de penser à des situations qu'aujourd'hui, on n'a jamais vécues, mais qui pourraient arriver demain ou après-demain. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-François, où je fais le lien avec la technologie, c'est que je crois que la technologie nous permet de faire ces simulations-là et ces exercices-là de scénarios différents pour établir et valider quels sont les impacts si un tel scénario ou si un autre scénario arrive sur nos opérations ou nos activités courantes et sur notre modèle d'affaires également.
Chaos Zombies, il va falloir que je m'en souvienne de celle-là.
Si on revient sur les éléments, on a parlé tantôt de la gestion du risque, mais il y a d'autres éléments qui sont critiques pour créer une organisation résiliente. Pour ma part, je pense à la culture organisationnelle, je pense à notre personnel, à nos équipes dans notre organisation, la technologie qui en fait partie avec les processus. Encore une fois, on a parlé de la gestion du risque tantôt, c'est une partie vraiment importante, et des équipes dédiées à la gestion de la résilience. Donc, on parle d'une équipe dédiée qui va observer. D'une part, en amont, on va observer qu'est-ce qui se passe sur le marché pour voir les perturbations possibles qui s'en viennent, pour voir les risques, mais pour être à l'affût de qu'est-ce qui se passe. On a déjà identifié des risques potentiels. Donc, cette équipe-là, en amont, est vraiment là pour observer et voir venir les situations avant que ça devienne très problématique. L'autre part, c'est l'équipe elle-même qui fait la gestion du risque. Donc, pendant qu'on est dans la crise, cette équipe-là a une fonction immédiate qui travaille sur comment on gère notre risque. Et finalement, la dernière équipe, c'est une équipe prospective qui, elle, regarde comment on va s'en sortir et quels sont justement, comme Éric, tu mentionnais tantôt, le rôle pivot, les opportunités qui peuvent découler d'une crise. Donc, l'équipe prospective a comme mission de regarder le futur, de regarder qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut changer, autant dans nos produits, dans nos services que dans notre modèle d'affaires. Éric?
Ben, j'en profite pour faire un lien hyper facile là, par rapport à l'épisode 5 qu'on a fait, en fait, il y a quelques semaines. Quand je parlais de qui est responsable de monitorer les edges, ce que j'appelais les edges du marché, puis j'ai pas inventé le terme, là, c'est Rita McGrath qui en parle de long et en large dans son dernier bouquin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une équipe qui doit être en mesure d'observer qu'est-ce qui se passe à la frontière même de l'industrie par rapport à d'autres industries, mais par rapport aussi à des changements technologiques, par rapport à des événements sur lesquels on a quand même une certaine forme de visibilité. Donc ça, il y a moyen, comme tu viens de le dire, de monitorer une certaine d'avoir une action proactive par rapport à ce monitoring-là et évidemment de calculer ou de paramétrer les réponses qui pourraient être adéquates. Tantôt, quand on explorera d'autres volets, je voudrais rentrer dans comment qu'on travaille les éléments qui sont potentiellement non prévisible. On en a parlé un petit peu tantôt avec dans la discussion, mais pour les éléments qui sont prévisibles, il y a des façons de l'intégrer dans les pratiques d'affaires de l'entreprise.
Et il y a des cultures, il y a des secteurs d'activité qui pratiquent ça beaucoup mieux. Éric et moi, on vient de l'aéronautique. Dans l'aéronautique, dans la construction aéronautique, ces questions-là de résilience sont incluses dans tous les produits qu'on conçoit et amène sur le marché. Et on va voir aussi ces questions-là de résilience pour assurer la sécurité du public essentiellement arriver. Et c'est ce qui rend l'arrivée de nouveaux services par drone, par exemple, ou de conduite autonome si complexe et si difficile. Cette capacité-là d'avoir des systèmes suffisamment résilients pour faire face à tout un ensemble d'imprévus ou ce que j'aime bien, l'orage parfait ou le perfect storm là, de situation où le réseau de téléphonie mobile tombe, plus il pleut, plus etc., etc., etc. Et sans nécessairement s'approcher d'un système purement aléatoire comme Chaos Monkey ou Chaos Zombies en parle, et de trouver cet équilibre entre jusqu'à quel point est-ce que je dois me prémunir contre ça, jusqu'à quel point est-ce que je dois transformer mes activités ou, comme tu dis, dédier des ressources ou dédier une partie de mes ressources. Hein, ton équipe de veille ou ton équipe d'observateurs, ça peut être des gens qui font ça 2 heures par semaine, mais l'important, c'est de faire les 2 heures. Mais jusqu'à quel point, et ça aussi, en management de projet, on a des grosses décisions à prendre en termes de jusqu'à quel point je vais prendre une police d'assurance contre ce risque-là ou cette éventualité-là.
En fait, moi, il y a 2 éléments dans ce que tu viens de mentionner qui m'accrochent un peu plus. Un, c'est le besoin de redondance. Donc, quand on a un système où il y a un risque accru et que le risque peut être très important ou très, très, très élevé, la redondance va nous permettre justement de pouvoir se retourner plus rapidement, trouver d'autres solutions ou d'autres partenaires si c'est les fournisseurs là, parce qu'ils sont dans une région spécifique de la planète où il y a plus de risques associés, mais d'avoir une redondance de fournisseurs dans un autre secteur géographique peut nous permettre de pallier à cet événement-là. Éric?
Ben, juste sur ce point-là que tu mentionnes, c'est drôlement important parce que quand on réfléchit à tout ce qui est stratégie d'approvisionnement, à titre d'exemple, on se rend compte qu'on ne doit pas traiter toutes les catégories de la même façon. Il y a des catégories qui sont stratégiques, il y a des catégories qui sont de commodité, et il y a d'autres classifications, évidemment. Mais juste sur ces 2 opposés-là, on n'a pas besoin, par exemple, d'aller chercher une redondance sur des fournisseurs de papier-crayon. Là. Exemple très simple et banal.
Oui.
Alors que si on est une multinationale qui crée des produits de santé-beauté, ben il y a des éléments qui rentrent dans la conception du produit qui sont extrêmement critiques et par lesquels on ne peut pas subir un bris dans la chaîne d'approvisionnement parce que il y a des éléments qui sont critiques par rapport à la conduite normale des affaires. Mm. Donc, il y a des tempos qui sont importants en fonction des types de catégories, Jean-François.
Mais on vient de s'apercevoir aussi que la Chine et l'Inde produisent une très grande majorité de des principes actifs des médicaments que nous consommons à l'échelle mondiale et en particulier dans le monde occidental. Parfois, ces choses-là, la migration de certaines opérations dans certaines régions ou dans certaines zones ou dans certains pays à bas coût, par exemple, se fait d'une manière assez subtile et on n'est pas toujours conscient de ça. Quelques exemples me viennent à l'esprit là pour revenir à Rita McGrath. Le cas de l'argent, hein, la fois que les frères Hunt ont essayé d'acheter tout l'argent, le métal, argent âgé au sens chimique du terme, sur la planète pour justement détenir un monopole sur ce matériau-là. On a été assez chanceux, entre guillemets, au sens mondial du terme, de s'en apercevoir avant qu'ils arrivent à détenir plus de 80% de tout le métal sur la planète. Donc je pense aussi à une certaine période où c'était les Japonais qui avaient le monopole de la construction de semi-conducteurs ou de certaines mémoires, par exemple, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que pour les mettre, pour en acheter, le gouvernement américain s'aperçoive que pour mettre certains chipsets dans leurs produits militaires, ils devaient obligatoirement aller s'approvisionner au Japon. C'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que cette concentration-là était devenue problématique. Donc, c'est pas toujours facile à voir non plus. Je suis d'accord avec toi, mais une veille ordinaire, entre guillemets, ne donnera pas nécessairement les bons résultats pour ces choses-là. Et puis, je suis d'accord avec toi que pour les questions stratégiques pour l'organisation, mais en quelque part, la santé de tes employés, on vient de s'apercevoir que c'est stratégique. On vient de s'apercevoir de tout un ensemble de choses et surtout cette micro-pseudo-pénurie de papier de toilette ou de pâte alimentaire qu'on a connue, je pense que dans tous les pays, à des degrés divers au courant du mois de mars l'année dernière. Viens pas me dire que le papier de toilette ou les pâtes alimentaires, c'est stratégique là, pour une supply chain, mais c'est stratégique pour tes activités en quelque part.
Oui, mais je pense que l'élément qui ressort de tout ça, c'est que malgré le fait qu'il y a plusieurs manières ou plusieurs éléments pour ramener de la résilience en organisation, l'analyse de la gestion du risque demeure capitale dans l'exercice parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir, selon le degré de sévérité du risque associé à l'analyse qu'on a fait, c'est ça qui va nous permettre de dire est-ce qu'on dédie des ressources pour être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on dédie des ressources pour créer de la redondance, est-ce qu'on diminue entre guillemets l'efficience pour augmenter la flexibilité versus un autre risque qui lui n'aurait pas le même niveau, qui est en fait mineur, que c'est pas grave si on dédie des ressources à cette étude-là ou non. Donc, la gestion du risque demeure capitale dans l'exercice, mais il y a un ensemble d'autres éléments qui doivent également être en place, comme la culture, avoir le personnel avec les capacités. Puis, on revient souvent sur les mêmes éléments, la culture, la communication, porte ouverte, partage de connaissances, la gestion de la connaissance en entreprise. Ça revient sur pas mal les éléments qu'on discute depuis le début du podcast, depuis les premiers épisodes.
Oui.
Mais ce sont des éléments qui se superposent dans une organisation, dans sa stratégie pour assurer son succès et sa pérennité à long terme.
Tu parlais de Fukushima au début comme un des exemples là, de choses qu'il y avait en commun sur les différentes dates-là. La crise des subprimes, la crise de la COVID-19 et cet incident-là au Japon. Et il y avait un excellent article dans le New York Times à l'époque qui, une fois que l'étude sur les causes de la catastrophe de Fukushima avait été produite au Japon, avait identifié justement cette aspect-là de culturel, de la culture de l'entreprise et même de la culture du pays qui avait joué un rôle dans cette catastrophe. C'est très intéressant dans ce sens-là.
Ça fait partie, par contre, du cycle de la résilience. Quand je parlais au début de la boucle d'apprentissage, une fois qu'on a passé au travers de notre crise, c'est important de revenir en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a laissé tomber dans nos processus, qu'est-ce qui était dans nos pratiques courantes auparavant qu'on vient de laisser tomber, qu'est-ce qu'on a appris. Et dans la double boucle d'apprentissage, en fait, c'est qu'on va intégrer cet apprentissage-là dans nos pratiques et dans nos processus futurs, au lieu de juste dire « oui, on a réagi, on a appris, on arrête, on repart comme on faisait auparavant ». Donc, c'est ça le volet apprentissage à la fin de la crise et de la résilience. Dans notre troisième segment, en fait, je voudrais parler de comment une organisation peut savoir si elle est résiliente, si elle a mis en place les éléments nécessaires pour être résiliente. Alors, pour moi, il y a différents éléments qui rentrent là-dedans, dont les pratiques de routine. Puis le mot routine, je pense qu'on en reparle plusieurs fois dans différents segments, puis sûrement qu'on va en reparler dans plusieurs épisodes. Mais les routines de nos pratiques de résilience, nos pratiques de détection, de réaction, de mise en marche de solutions. Oui, Jean-François, je te vois.
Oui, mais avant que tu ailles plus loin dans tout ça, je brûle d'envie de te demander. Tu vas parler de double boucle d'apprentissage. Peux-tu nous expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un grand fan de ces questions-là d'apprentissage dans l'organisation, pas juste d'apprentissage individuel, mais la double boucle d'apprentissage. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Oui, en fait, quand on regarde une réaction dans une crise organisationnelle, par exemple, l'organisation s'adapte pour faire face à la crise à laquelle elle est en train de vivre. On part d'une organisation qui est structurée, qui a certains processus en place. Pendant la crise, il y a un élément qui fait en sorte que certains des processus ou certaines des choses qu'on faisait auparavant, on les laisse naturellement tomber pour être capable d'affronter la situation à laquelle on fait face aujourd'hui.
Oui.
Dans une simple boucle d'apprentissage, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, oui, on est conscient, on a laissé tomber des choses, on le reconnaît, mais on va consciemment décider de revenir à nos pratiques antérieures. Mm-hmm. Donc, on sait qu'on a effectué un changement, on ne sait pas trop pourquoi on a effectué le changement, on ne voit pas non plus quel a été l'impact de ce changement-là, autre qu'on a passé par-dessus la crise,
oui.
Mais on est revenu à nos pratiques antérieures.
D'accord.
Dans la double boucle d'apprentissage, on va faire un debrief, un post-mortem un peu plus précis dans lequel on va vraiment regarder qu'est-ce qu'on faisait auparavant, quels étaient nos processus, quelles étaient nos méthodes de communication, quels étaient nos outils, qu'est-ce qu'on a changé pendant la crise et pourquoi on les a changés pour analyser les impacts de ce changement-là. Est-ce que l'impact est simplement qu'on a pu passer au travers de la crise plus rapidement? Mais si c'est le cas, est-ce qu'ils sont encore nécessaires
dans
notre processus
de la valeur,
antérieur? Hein? Mm-hmm. Exactement. Est-ce qu'ils ont encore de la valeur qu'on devrait les maintenir en place? Et donc là, on va faire une analyse un peu plus pointue, justement pour apprendre davantage des transformations, des changements qu'on a faits sur nos méthodes de fonctionnement de travail, pour voir qu'est-ce qui vaut la peine d'être conservé. Et si
D'accord.
c'est conservé, donc on va l'intégrer dans nos nouveaux processus, on va coacher nos équipes, on va donner des formations pour montrer à tout le monde, voici ce qu'on a appris pendant la crise et voici pourquoi et comment on change notre processus pour être sûr de ne pas revenir en arrière nécessairement si ce n'était pas important. En même temps, ce post-mortem-là peut aussi nous permettre de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a laissées tomber, qui ont eu un impact négatif sur notre approche et qu'on Oui. doit absolument maintenir des processus qui étaient là au départ. Donc, la double boucle, c'est vraiment une analyse plus pointue, plus détaillée des changements qu'on a apportés, de leurs impacts et de qu'est-ce qu'on doit maintenir ou ramener ou modifier pour le futur.
Autrement dit, sortir de l'instinctif, donc autrement dit, ce que les individus ont fait naturellement, je vais arrêter de faire ça parce que moi, je pense qu'il y a moins de valeur là, dans cette activité-là ou dans ce processus-là pour me lancer dans le damage control ou la contrôle l'aide que d'autres fonctions peuvent avoir besoin. Pour sortir de ce réflexe-là, pour rentrer dans une démarche un peu plus analytique, un peu plus construite. Ah, je comprends très bien. Ah, super, oui. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Mais ça nous permet d'apprendre de l'événement, pas juste de le subir, mais d'en retirer quelque chose de positif au bout du compte aussi.
Oui.
Donc, si on revient à notre segment, comment savoir si l'organisation est résiliente? Moi, je vous ai parlé des pratiques de routine, de mise en place. Un des exemples faciles que je peux vous donner par rapport à ça, c'est dans presque toutes les compagnies, on fait au moins une fois par année un exercice d'évacuation en cas d'incendie. Si on est chanceux, la majorité des cas, on n'a pas vraiment d'incendie, mais on prend le temps de monopoliser le temps de tout le monde pour faire cet exercice-là, voir en combien de temps on est capable de sortir, de se retrouver au point de rencontre. C'est un exercice qui sauve des vies parce qu'on bâtit une routine, on bâtit une réaction, on bâtit une méthode, un procédé pour s'assurer que tout le monde peut sortir du bâtiment en sécurité et qu'on ne perd pas personne au combat. Mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose dans une pratique de routine de résilience? Est-ce que ça s'intégrerait? Ce sont des exemples que moi j'ai en tête, mais j'aimerais vous écouter pour votre part. Quels sont les éléments qui vous permettent de voir si une organisation est résiliente? Éric?
En fait, un des bons moments pour être capable d'évaluer la résilience, au moment que, à chaque année, l'organisation fait le point sur sa stratégie, fait le point sur les actions qu'elle doit mettre en œuvre pour les 12 à 36 prochains mois, c'est une belle occasion de tester le modèle d'affaires. Ce que je veux dire par là, c'est que du point de vue de la stratégie, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui doit être vrai pour que notre stratégie soit la bonne. Donc, en posant cette question-là, ça nous permet de développer quels sont les éléments sur lesquels on a moins d'assurance ou sur lesquels on a moins de certitude par rapport aux événements qui peuvent subvenir dans l'environnement.
Une forme de R&D
stratégique. Donc, ça ouvre la porte à tester les conditions de succès et à évaluer les variations potentielles de ces conditions de succès-là. Et par le fait même, ben, ça ouvre, évidemment, ça ouvre la porte au test d'hypothèse. Ça nous permet de définir les alternatives qui sont possibles. Et ça permet de voir quels sont les signaux auxquels on devrait porter attention dans les 12 à 36 prochains mois et avoir un cahier de charge, si je peux le dire de cette façon-là, à savoir comment ces signaux-là évoluent et est-ce qu'ils vont en augmentant ou ils vont en diminuant. Donc, je suis un petit peu différent de l'exercice de gestion de risque. Je suis vraiment dans une dynamique de quelles sont les conditions de succès pour que notre stratégie soit gagnante et qui nous amène à tester, on pourrait dire presque en continu au courant de l'année aussi, en maintenant ce regard-là sur ces conditions-là. C'est souvent quelque chose qui ne se fait pas. Et quand les entreprises intègrent cette méthode de travail, ben, tout l'exercice de stratégie n'est plus un exercice de planification dans le sens propre du terme. Ça devient un exercice beaucoup plus dynamique et c'est un exercice qui est très collaboratif parce que ça demande la contribution de beaucoup de joueurs dans l'organisation. Jean-François?
Oui, j'aime beaucoup la notion que tu viens de découvrir de recherche et développement stratégique. On parle souvent de recherche et développement en matière de développement de nouveaux produits, développement de nouveaux services, développement de nouvelles technologies, de nouveaux processus, de nouvelles façons de faire ou de nouvelles façons d'ajouter de la valeur à nos produits ou services. Mais le fait de justement d'expérimenter et de tester les nouvelles stratégies, ça m'a inspiré particulièrement. Moi, pour ma part, je viens de ma perspective d'agilité aussi et donc je vais avoir tendance à dire allons voir au plus près quels sont les comment est-ce que nos collaborateurs qui sont au contact de nos activités, de nos clients, de nos partenaires, des différentes parties prenantes, comment voient-ils et elles cette notion-là ou cette question-là de résilience? Où est-ce qu'ils voient les zombies dont tu parlais tout à l'heure? Ils sont où les zombies? Moi, j'adore ça.
Les points d'intersection. Aussi, où sont les points d'intersection où la collaboration est possible et même, possible, mais où la collaboration est nécessaire. Excusez, le mot me manquait. Mais sans nécessairement, espérons, trouver des zombies en chemin, mais pour créer justement cette synergie avec nos partenaires internes de l'organisation, mais externes de l'organisation aussi, pour trouver des points communs dans lesquels on peut collaborer pour amoindrir les risques et les impacts négatifs, tout à fait. Moi, d'un point de vue peut-être opérationnel un peu, j'ajoute quand même la capacité d'avoir certains éléments technologiques pour nous permettre non seulement une plus grande visibilité de notre chaîne d'approvisionnement, de nos partenaires, de nos flux de mouvement, mais de transparence d'information aussi qui peut nous aider dans ces intersections de collaboration avec nos partenaires. On parlait tantôt de la capacité de l'organisation à s'adapter, l'apprentissage et tout ça. On doit créer un environnement, une culture où les gens savent que, le personnel sait que l'entreprise, les têtes dirigeantes font confiance à l'équipe et qu'ils ont la flexibilité pour manœuvrer à l'intérieur de cette situation de risque. Parce que la réalité, si on doit respecter cette cadence de hiérarchie à tout prix, bien c'est sûr que le délai que tout ça l'impose, ça fait en sorte que notre capacité à être résilient et à s'adapter rapidement, à amoindrir le délai de recouvrement est grandement affectée. Donc, cette confiance, cette capacité-là et cette flexibilité-là au sein de l'entreprise, je pense qu'elle est critique pour les équipes qui font la gestion de la crise.
Puis ce que tu dis, ça met clairement en valeur la notion du cerveau collectif, que l'équipe de direction, un de ses rôles, c'est à ce moment-là d'encadrer le cerveau collectif, maximiser l'apport des différents collaborateurs et non d'être la tête pensante qui demande à tout le monde d'opérer en fonction de sa perspective. Et c'est un changement de paradigme, mais qui amène l'agilité qui est très chère à Jean-François, exact. Qui amène l'excellence qui t'anime et qui fait en sorte que l'organisation devient nettement plus, je ne veux pas dire flexible, je ne veux pas dire agilité, parce que là, qui est nettement plus en mesure de tirer avantage des opportunités, mais en même temps de réagir rapidement à des enjeux qui sont stressants pour l'organisation.
Absolument.
Oui, tout à fait. Et tout ça proviendrait d'une approche beaucoup plus délégative et de l'élaboration de l'organisation et de ses façons d'échanger de l'information, plutôt que de la faire concentrer en, sur un département ou une personne, par exemple. On peut penser à un réseau neuronal d'échange d'informations.
Et oui, c'est oui, effectivement, mais c'est un peu le ce que la culture d'agilité et ce que la culture lean peuvent apporter aussi dans une organisation, parce qu'on on délègue le pouvoir décisionnel, oui, ou le pouvoir d'alerter à différentes situations, mais par le coaching qu'on fait au sein des différentes équipes de travail, indépendamment de leur hiérarchie dans l'organisation, on crée une équipe qui est capable d'identifier les problématiques et qui est capable de travailler pour trouver des solutions. Donc, ça permet le cerveau collectif, comme Eric, comme tu viens de mentionner.
Et puis, pour faire un exemple très concret, ça me ramène à comment que dans les années 80, on découvrait en Amérique qu'au Japon, on donnait aux ouvriers le choix d'arrêter la ligne d'assemblage ou la ligne de montage, notamment, je pense que c'était chez Toyota. Alors que c'était quelque chose de complètement impensable dans les compagnies automobiles en Amérique du Nord. On n'arrête pas une chaîne de montage. Et on donnait le pouvoir, et ce pouvoir-là permettait, ben, à juste titre, d'aller chercher des gains incroyables pour l'organisation.
Absolument. Puis on pourra revenir sur ce sujet-là dans un podcast subséquent, parce que ça peut être un podcast juste à lui-même. C'est un sujet fort intéressant.
Oui.
Alors, ceci conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je voudrais vous laisser avec trois réflexions. La première, la résilience se pratique, se travaille et se planifie. La deuxième, la gestion du risque fait partie des approches de gestion courante et doit faire partie de la résilience. Et la troisième, la résilience ne se fait pas tout seul, ça prend une communauté et des efforts avec des objectifs communs au sein de l'organisation et avec nos parties prenantes externes pour y arriver. Alors, j'espère que cet épisode vous fournit des éléments pour mettre en place une culture résiliente dans votre organisation. Pour en consulter les notes de l'épisode, veuillez visiter inteliaconsulting.com/épisode 8. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt et restez en santé.
Merci à vous deux. Bien content d'être avec vous aujourd'hui.
Merci et au revoir. À bientôt.